Les dessous de l'infox sur RFI.
Les dessous de l'infox.
Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous. Démêler le vrai du faux, comprendre la fabrique d'une fausse information. Bienvenue à tous dans les dessous de l'infox.
RFI.
Un rendez-vous hebdomadaire avec au sommaire de ce vendredi 1er avril. La guerre en Ukraine, ou comment Vladimir Poutine sature les réseaux sociaux de propagande et à l'inverse, censure la presse russe. Les médias indépendants ferment les uns après les autres. C'est ce que nous verrons avec Grégory Genevrier. Invité des Dessous de l'Infox cette semaine, Asma Mala, enseignante sur les enjeux du numérique à Sciences Po Paris, nous expliquera en quoi le cyberespace est un terrain de guerre à part entière. Et puis enfin, avec les observateurs de France 24, face aux nombreuses infox généré par la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux, pour tromper son auditoire, de plus en plus de fausses informations empruntent les codes du fact-checking. C'est ce que nous expliquera Thaïs Chaigne. Voilà pour le sommaire, les dessous de l'Infox, réalisé par Hélène Avril. La chronique des dessous de l'Infox avec ce soir Grégory Genevrier. Bonsoir.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
Российская сторона сделала все, чтобы обеспечить безопасную работу украинских АЭС, взятых под контроль нашей армии.
Et cette question, comment les Russes peuvent-ils toujours et encore s'informer aujourd'hui alors que la guerre perdure depuis maintenant 5 semaines, l'étau de la censure ne cesse de se resserrer. Vladimir Poutine veut imposer son narratif tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. La société russe, Grégory, se retrouve quasiment sous cloche.
Oui, la parole en Russie n'a jamais été aussi surveillée et verrouillée que depuis le début de l'invasion. Le moteur de ce contrôle, c'est cette loi votée par le Parlement russe le 4 mars dernier qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute personne publiant des informations dites mensongères sur la situation en Ukraine. Le texte empêche toute remise en question du narratif de Moscou sur cette guerre, rappelons-le, maquillée en simple opération militaire. Toute personne utilisant les termes de guerre, d'invasion ou même d'offensive s'expose à de la prison. Impossible donc de faire un réel travail journalistique. Le simple fait d'affirmer l'existence de victimes civiles ukrainiennes est risqué, car ces faits contredisent la version officielle.
Résultat, Grégory, aujourd'hui, que reste-t-il de l'offre médiatique pour les Russes ?
Eh bien, dans ce contexte d'oppression, le peu de médias indépendants présents dans le pays préfèrent renoncer à leur activité. La radio Echo de Moscou et la chaîne de télé Dojd ont été les premiers à en faire les frais au début du mois. Ce lundi, c'est la Novaya Gazeta, le journal dirigé par Dmitri Muratov, prix Nobel de la paix 2021, qui s'est arrêté. Des sites internet de médias étrangers comme la BBC, la Deutsche Welle ou Bellingcat ont aussi été interdits par le Roskomnadzor, le gendarme russe d'internet. Autre conséquence, de nombreux médias étrangers ont rappelé leurs correspondants sur place. Seule la parole officielle est encore autorisée et les médias d'État sont omniprésents.
Reste encore les réseaux sociaux. Les Russes peuvent-ils encore s'y informer ?
Difficilement, puisque les réseaux sociaux sont aussi pris pour cible. Twitter, Facebook et Instagram ont été interdits dans tout le pays. Les Russes doivent se contenter du réseau social Maison, VKontakt, et de ses concurrents chinois OK et WeChat, ou de Telegram et WhatsApp. TikTok fonctionne, mais le géant chinois fait le choix de rendre inaccessibles les contenus étrangers et de restreindre la publication de vidéos.
Quelle information trouve-t-on sur ces réseaux sociaux encore disponibles ?
Eh bien, l'espace restant, il sert à la désinformation du Kremlin. Sur TikTok, par exemple, un rapport de l'organisation Tracking Exposed montre que seuls des comptes de propagande russe peuvent encore publier du contenu. Une enquête de Vice révèle aussi que des influenceurs sont payés pour diffuser des messages pro-Kremlin sur TikTok et VKontakt. Dans leurs vidéos, ils répètent en boucle le même script et utilisent les mêmes hashtags. La stratégie Poutine, c'est donc d'un côté d'épuiser l'offre informationnelle et de l'autre de saturer les réseaux de propagande. Les Russes sont donc déconnectés de ce qu'il se passe réellement en Ukraine.
Quant à l'objectif de cette propagande,
Vladimir Poutine, il cherche à faire taire toute contestation possible dans le pays. Il a d'abord imposé son récit de justification d'entrée en guerre et il veut maintenant masquer la réalité du terrain en minimisant les pertes. Il s'agit aussi pour lui de faire porter la responsabilité des difficultés endurées par son peuple sur l'Ukraine et l'Occident.
Enfin, est-il possible de contourner cette censure ?
Alors oui, difficilement. Internet et le numérique permettent de passer à travers les mailles du filet. Les VPN, notamment des réseaux privés virtuels, peuvent être utilisés pour contourner ces blocages, tout comme le dark web, une partie cachée d'Internet qui sort de la main du Kremlin. Bref, la censure n'est pas infaillible, mais elle demande des efforts pour une population déjà soumise à de nombreuses restrictions.
La chronique des dessous de l'Infox, signée cette semaine Grégory Genevrier, a noté que de son côté, le site en russe de Radio France Internationale est à ce jour toujours disponible en Russie. Invité des dessous de l'Infox, Asma Mala, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, vous êtes enseignante des enjeux politiques de l'économie numérique à Sciences Po Paris, auteur d'un rapport pour la Fondation Jean Jaurès, Penser la technopolitique au XXIe siècle à l'aune de la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre, Asma Mala, en Ukraine, le 24 février dernier, avez-vous tout d'abord observé une recrudescence des cyberattaques ?
Alors oui, le volet cyberattaque de la guerre ou du combat est un volet important, mais à prendre avec précaution. C'est-à-dire qu'il y a eu une recrudescence, en effet, quotidienne, en fait, hein, de cyberattaques de part et d'autre, des Russes vers les Ukrainiens et vice-versa, mais plutôt de basse intensité. C'est-à-dire que ça n'affecte pas, à date en tout cas, des infrastructures critiques ou vitales. Et ça, c'est assez important à observer, à noter. Et d'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup étonné la communauté des cyber-experts sur le sujet, parce qu'on s'attendait pour le coup vraiment à ce que la guerre en Ukraine soit un des premiers grands conflits de ce qu'on appelle la cyberguerre, on y reviendra sans doute. Et en fait, non. Le volet qui a été le plus prégnant en termes d'intensité a plutôt été le volet informationnel. Cela dit, les questions des cyberattaques sont un sujet politique majeur qui fait aussi partie d'un narratif, qui fait aussi partie de la dissuasion des deux camps et qui reste en fait à suivre pour les prochaines semaines. Si tant est d'ailleurs qu'on entre réellement dans une guerre d'usure.
En quoi cette guerre en Ukraine est d'après vous un laboratoire des nouvelles pratiques de cyberdéstabilisation ?
Alors, la cyberdéstabilisation, c'est un peu le concept que je propose pour mettre en cohérence un certain nombre d'actions, de tactiques, de stratégies qui sont aujourd'hui un peu disparates et qui viennent en complément de combats beaucoup plus conventionnels. Et donc, ce que j'entends par là, c'est l'ensemble des actions qu'un ennemi peut, ou qu'une nation, ou qu'un État peut mettre en place pour déstabiliser dans la sphère cyber son ennemi.
Avec donc, quelques exemples.
Et tout de suite, je vous donne quelques exemples. Alors, d'abord, il y a deux grands volets, en réalité. Si je devais vraiment schématiser sans entrer dans de trop grands détails, vous avez d'abord le volet informationnel, la guerre informationnelle. Et c'est là où on va retrouver toutes les questions de désinformation, de propagande, d'injection de narratifs, d'intoxication de l'écosystème informationnel. Et là, vous avez pléthore d'exemples. Les Russes sont plutôt très aguerris en termes de techniques de désinformation. Ça peut être l'ensemble des infox, des fake news ou d'informations d'ailleurs qui ont été manipulées, décontextualisées et qui ont émaillé le conflit. En particulier au tout début du conflit, quand on a commencé à voir des vidéos qui avaient été tournées en Syrie et qu'on avait recontextualisé entre guillemets sur la guerre d'Ukraine. L'ensemble des trolls, des bots russes qui ont, et ukrainiens d'ailleurs aussi, qui ont tout d'un coup fleuri et apparu sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok et Twitter ont été vraiment en première ligne de cette guerre de l'information. L'enjeu derrière est toujours à double détente, si je devais vraiment revenir là-dessus. En particulier, ce qui est intéressant dans la stratégie russe, c'est qu'elle a d'abord une première priorité qui est le contrôle de l'information sur son territoire. Et donc là, on est vraiment sur de la censure avec la loi du 4 mars 2022 qui a été votée. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est des analyses vraiment dans un espace-temps. Et surtout, il y a la déstabilisation de la sphère informationnelle du camp adverse. Et le camp adverse, c'est d'abord l'Ukraine, mais c'est aussi et surtout nous, opinion publique occidentale. Et puis le deuxième volet, et je terminerai là, ce sont les volets cyberattaques qui, elles, sont continues, mais plutôt en dessous du seuil d'affrontement. Et là, l'une des cyberattaques les plus emblématiques, bien qu'en réalité pas tellement impactante, ça a été la fameuse cyberattaque affilié aux Russes, à un groupe russe, du satellite américain Cassad, qui avait en fait mis en panne plus de 60 000 éoliennes allemandes, interrompu la connectivité d'un certain nombre de foyers français, etc. C'était il y a quelques semaines de ça. Donc c'est un peu la chose la plus marquante qu'on a pu observer à date.
Une cyberattaque peut être considérée comme un acte de guerre. Je fais référence notamment à un pacte tacite de non-agression qu'auraient passé la Russie et les États-Unis.
Alors ça, c'est mon hypothèse. En fait, il y a deux choses. En effet, une des raisons, parce que la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Est-ce que dans le volet des cyberattaques, on est à ce niveau de faible intensité-là? Pourquoi est-ce que ça n'a pas pris tout d'un coup l'énorme ampleur? Alors, en gros, il y a deux grandes familles de raisons. Soit, en fait, on a complètement surestimé les capacités cyber, notamment russes. Première hypothèse. Peut-être pas, on n'en sait rien. A priori, non. Et puis, soit, en fait, et là, il faut remonter un tout petit peu dans le temps, il y aurait eu un accord tacite, un gentleman agreement entre Biden et Poutine pour ne pas attaquer ou s'attaquer mutuellement sur des infrastructures vitales qui sont de l'ordre d'ailleurs de 16. C'est une liste de 16 infrasecteurs qui ont été actés à Genève quand ils se sont rencontrés en juin 2021, les deux. Et le sujet de la cybermenace a été dans l'ordre du jour, finalement, de cette rencontre. Et en fait, elle venait et elle faisait suite à la très grande cyberattaque de Colonial Pipeline, qui est un opérateur de l'oléoduc américain, qui avait été cyberattaqué par des groupes affiliés à l'État russe, on va dire, et qui avait finalement bloqué pendant plus de 48 heures l'ensemble des opérations de l'opérateur sur toute la côte est américaine. Et donc Biden, à ce moment-là, avait vraiment pris l'ampleur du sujet, avait alerté, avait lancé un certain nombre de communiqués plutôt offensifs, et ce qui avait donné lieu à la fameuse discussion de Genève en juin 2021.
À vous écouter, à ce moment-là, n'y a-t-il pas une fascination exagérée, voire une exagération des cyberattaques?
Il y a une fascination qui est, à mon avis, entretenue. C'est-à-dire qu'on a intérêt à faire croire justement à l'ampleur et à la gravité et à la criticité de ce type d'action, parce que précisément, ça participe d'une forme de dissuasion politique, de mise sous pression de l'ennemi, et donc c'est un élément aussi du narratif et de la guerre informationnelle. C'est-à-dire que si on fait croire à l'ennemi, en fait, qu'on peut le cyberattaquer, qu'on peut lui mettre ses services critiques, gouvernementaux, militaires, logistiques, à plein, ça peut être un élément, disons, de mise sous pression. Et donc, de ce point de vue-là, maintenir le niveau de, disons, de panique ou de peur autour de ce type d'action est utile d'un point de vue et militaire, stratégique et politique.
Je reviens au champ informationnel des cyberattaques. Vous évoquez dans votre rapport une militarisation du champ informationnel.
Oui, ce sont des analyses qui sont aujourd'hui largement partagées sur cette question-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? L'information, traditionnellement, dans la doxa, en tout cas occidentale, est plutôt perçue comme étant ce qu'on appelle un bien commun. Or, en réalité, et depuis la nuit des temps, l'information est aussi une ressource stratégique et militaire. Les renseignements, le cyberespionnage, par exemple, etc. Et ce qu'on voit apparaître là, c'est que tout d'un coup, plus que la militarisation de l'information, c'est en fait ce qu'on observe, c'est la militarisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire aussi de ces espaces qui jusque-là posaient un certain nombre de questions, d'ailleurs, en termes de gouvernance, de modération, etc., mais qui deviennent des entités géopolitiques à part entière parce qu'ils distribuent de la parole, ils distribuent de l'information, ils surabondent et donc ils créent de la surinformation, qui est aussi le corollaire finalement de la désinformation. Et de ce point de vue-là, l'information comme arme de guerre, c'est-à-dire arme de propagande, de distribution de narratifs, de déstabilisation psychologique, parce qu'en fait l'enjeu derrière, c'est bien une guerre psychologique qui se joue en état de guerre normale. De ce point de vue-là, oui, il y a une militarisation et de l'information, et surtout des espaces où elle circule, où elle se distribue, en l'occurrence, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et donc, se pose la question du rôle, par exemple, des big tech américains aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, pour moi, en tout cas, et ce qui est en creux, c'est les questions que ça nous pose à nous. Alors, aujourd'hui, on est du bon côté, disons.
Autrement dit,
on est du côté occidental, les GAFAM sont de notre côté, etc., avec les questions usuelles de modération. Mais enfin, on est de ce côté-là. Mais demain, se pose la question fondamentale, et d'une part de la gouvernance des GAFAM, et d'autre part de notre souveraineté.
Quand vous dites « nous sommes du bon côté », vous pointez aussi dans votre rapport l'émergence d'un ordre quadripolaire qui concerne donc les questions du cyberespace. États-Unis, Chine, Russie et reste du monde. Autrement dit, Europe, Afrique ne seraient pas forcément dans cette course.
C'est tout l'enjeu, c'est toute la question du point que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et à date, eu égard à l'énorme retard technologique qu'on a pris, à l'énorme dépendance technologique qu'on a vis-à-vis de l'extérieur, aujourd'hui on est à deux doigts d'être considéré, si ce n'est pas déjà le cas, comme une zone d'influence des États-Unis au même titre que l'Afrique. Et donc en fait, on devient un champ de bataille idéologique, ce que on va appeler maintenant le smart power, c'est-à-dire une espèce de conjonction du hard power, c'est-à-dire vraiment l'armée, et puis ou la force militaire, et puis le soft power classique. Tout l'enjeu pour nous est de non pas trouver cette fameuse illusoire troisième voie, mais de se poser réellement la question de qu'est-ce que l'Europe, l'Europe puissance, l'Europe défense, sous quelle égide, sous quelle forme d'alliance, et comment est-ce qu'on redéfinit nos interdépendances.
Asma Mala, merci à vous d'être passée par Radio France Internationale.
Merci.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignante des enjeux politiques de l'économie numérique à Sciences Po Paris et auteur d'un rapport pour la Fondation Jean Jaurès intitulé « Penser la technopolitique au XXIe siècle à l'aune de la guerre en Ukraine ». Et cette semaine, dans les dessous de l'Infox sur RFI, nous recevons de la rédaction des Observatoires de France 24, Thaïs Chaigne. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Thaïs, dans la flopée d'Infox que génère la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux, vous croisez de plus en plus de fausses informations qui empruntent les codes du fact-checking, autrement dit la vérification des faits.
Et oui Adrien, cette semaine, j'ai par exemple travaillé sur des publications qui affirmaient que CNN avait mis en scène un de ses directs en Ukraine.
Look at those flames. They're just roaring, black smoke coming out of there, and you can see them putting the fire retardant.
On y voit un journaliste équipé d'un casque et d'une veste pare-balles devant un dépôt de carburant en feu. Et à l'arrière-plan de ce direct, parmi les pompiers qui s'activent pour éteindre cet incendie, il y en a un qui porte le nom de la ville d'Edmonton sur sa combinaison. Donc Edmonton, c'est la capitale de la province de l'Alberta au Canada. Il n'en faut pas plus à certains enquêteurs du web pour conclure. La chaîne américaine CNN utilise un incendie au Canada pour faire croire que la ville de Lviv est attaquée par la Russie.
Alors qu'en est-il vraiment, Thaïs ?
Eh bien, cette conclusion est évidemment fausse. Le bombardement de ce dépôt de carburant par des frappes russes le 26 mars a largement été couvert par plusieurs médias qui ont diffusé des photos et vidéos similaires à celles présentes dans le décor du direct de CNN. Ensuite, concernant le soi-disant pompier canadien en arrière-plan, eh bien c'est tout simplement que les pompiers d'Edmonton font des dons à leurs collègues ukrainiens et ce depuis des années. Une simple recherche Google suffit pour le savoir. Malgré tout, cette fausse information prétendant que CNN mettrait en scène ses tournages a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, y compris en France.
À vous écouter Thaïs, on a donc affaire ici à un faux fact-checking un peu bancal, et ce dans le cadre de la guerre en Ukraine. Croise-t-on beaucoup d'exemples similaires ?
Eh bien oui, et la plupart du temps, c'est bien plus subtil que l'exemple qu'on vient d'évoquer. Prenez War on Fakes, une chaîne Telegram et un site internet qui promet de faire la guerre aux infox. Démonstrations articulées, images frappées d'un tampon rouge fake pour faux, les codes du fact-checking sont là, du moins en apparence. Nos confrères de Check News ont écumé leurs articles et si certains corrigent en effet des fausses informations, d'autres vérifications sont très peu rigoureuses, voire mensongères. Un exemple, War on Fakes a affirmé que les femmes enceintes blessées dans les bombardements d'une maternité à Mariupol le 9 mars étaient en réalité jouées par une influenceuse ukrainienne. Pour cela, ils ont entre autres comparé une photo de cette dernière sur Instagram à celle d'une victime allongée sur un brancard et d'une autre en train de fuir la maternité. Mais il s'agissait bien de personnes différentes, comme l'ont démontré l'analyse rigoureuse des images de l'événement par plusieurs de nos confrères. La femme enceinte sur le brancard est d'ailleurs décédée depuis.
Alors, sait-on qui se cache derrière ces faux fact-checking, Thaïs ? Et autrement dit, est-ce de la propagande déguisée en vérification ?
Ça reste difficile d'en tracer l'origine exacte. Dans le cas de War on Fakes, force est de constater que leurs contenus sont repris par les ambassades russes et les autres relais de la propagande du Kremlin. En tout cas, ces exemples montrent que les codes du fact-checking peuvent être mis au service de la guerre d'information entre les deux pays. Et le conseil qu'on peut donner pour s'y retrouver, c'est de redoubler de vigilance pour ne pas se laisser avoir par un contenu qui a l'apparence d'une vérification, mais qui n'en est pas du tout une. Et pour ça, on peut s'appuyer sur les principes énoncés par l'IFCN, qui est le réseau international des fact-checkers, entre autres s'engager à être indépendant et impartial, être transparent sur ses sources et sur ses liens avec telle ou telle organisation, ou encore s'engager à faire des éventuelles corrections honnêtes et claires en cas d'erreur. Des principes à milieu de ceux que propose le site War on Fakes, évidemment.
Merci Thaïs Chaigne des Observatoires de France 24. On peut retrouver toutes les vérifications des Observatoires de France 24 sur votre site internet. Merci et à bientôt sur RFI. Ainsi se referment les dessous de l'Infox, une émission à retrouver, à partager grâce à nos applications et à notre site internet www.rfi.fr. Merci à Florence Pance pour la coordination, réalisation Hélène Avril. Quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro des dessous de l'Infox.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.